Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
Entre les notifications de notre téléphone portable, les mails et les appels incessants ou encore les bruits en open space, il est parfois très compliqué de se concentrer au travail. Face aux nombreuses interruptions, notre attention se trouve dégradée. Comment inverser la tendance ? Découvrez les conseils de Régis Rossi, conférencier en entreprise, co-auteur avec Claire Lozol et Didier Noyer de l'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction, livre qui vient de sortir aux éditions Erol. Bonjour Régis.
Bonjour Fabienne.
Comment vas-tu ?
Très bien, c'est le début d'année, je me suis réénergisé pendant les vacances.
Comment pourrais-tu définir l'attention qui est l'objet de ton nouveau livre ?
Alors l'attention, c'est une capacité à concentrer volontairement son esprit de manière déterminée sur une chose, sur une conversation, sur une personne. Voilà, c'est une intention d'être extrêmement concentré.
Concrètement, comment ça marche, notamment quand on cherche à se concentrer au travail ?
Eh bien, quand on veut se concentrer au travail, généralement, on ferme la porte. On ferme la porte si on a l'occasion, parce que parfois on peut être dans des open space, on se coupe des smartphones, généralement, parce que les notifications, les emails, les appels, évidemment, sont des ennemis de l'attention. Voilà, et on se met dans un endroit plutôt tranquille, dans lequel on se sent bien. Ça va favoriser évidemment notre attention.
Pourquoi est-ce qu'on devrait tous aujourd'hui faire attention à notre attention au travail ? Quels sont les avantages ? Qu'est-ce qu'on y gagnerait ?
Oui, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les technologies, les smartphones, ont un véritable impact sur nos capacités attentionnelles. Et qu'aujourd'hui, notre attention est de plus en plus faible et elles ont des conséquences, évidemment, sur notre équilibre émotionnel, sur notre relation avec les autres, sur notre bien-être. Et donc, ce sont des enjeux vraiment importants pour soi, mais également pour l'entreprise. L'attention est devenue une denrée rare et pourtant, c'est un joyau qu'il faut polir.
Oui, c'est une ressource précieuse, comme vous le dites dans le livre.
Tout à fait. C'est une vraie ressource parce qu'à partir du moment où on arrive à développer une attention forte avec soi, avec l'autre, eh bien, on développe son intelligence émotionnelle et qui va nous permettre de réussir les défis qui sont les nôtres.
Alors, ce n'est pas si facile de réussir à se concentrer, tu l'as dit, notamment avec le digital. Je vais te lire un extrait du livre d'Erwan Devez, 24 heures dans votre cerveau, qui est paru aux éditions Larousse, et je vais te demander de réagir. La multiplication des possibilités d'interaction a logiquement entraîné une explosion de l'information disponible. Un nouveau mot a fait son apparition pour décrire cette web errance, nous faisant surfer en permanence, d'une page à l'autre, l'infobésité. Or, comme le souligne Herbert Simon, la profusion d'informations entraîne une pauvreté de l'attention. Autrement dit, plus votre cerveau sera bombardé d'informations futiles pour simplement savoir, et moins il sera à même de développer ses circuits cérébraux avec de l'information utile pour comprendre. Il se cantonnera dès lors à un rôle passif et non actif et ne sera plus en capacité de créer de nouveaux neurones et connexions synaptiques. On comprend là toute l'importance fondamentale pour le cerveau de savoir trier et hiérarchiser l'information pour ne retenir que celle indispensable. Cette plus grande sélectivité des informations permettra d'améliorer sa capacité attentionnelle et décisionnelle, mais également de bénéficier de temps de récupération cérébrale supplémentaire essentiel au bon fonctionnement du cerveau.
Oui, je souscris évidemment, j'aime beaucoup les travaux d'Erwan Devez. Et effectivement, d'ailleurs, le livre qu'on a coécrit est le prolongement, en définitive, de ce constat. Nous, on est parti du constat que l'attention était une denrée rare, on l'a dit tout à l'heure, et qu'elle était un enjeu majeur pour le bien-être individuel et collectif. Et quand ça, à mon sens, c'est le défi du 21e siècle. Véritablement de réussir à se reconnecter. Parce qu'en définitive, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on a une baisse croissante de nos capacités d'empathie. Et ça, c'est compliqué lorsqu'on doit relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui.
Alors, comme le dit Erwan Devez, un des ennemis de l'attention, c'est l'infobésité. Il y a aussi le multitâche au bureau. On pense qu'en faisant plusieurs choses en même temps, on va réussir à tout faire et à bien faire. Or, c'est vraiment une erreur.
Oui, bien sûr. On parle de cécité attentionnelle. C'est notre très grande difficulté à pouvoir nous concentrer sur plusieurs choses à la fois. En fait, on est certain d'y parvenir, mais c'est un leurre. On se ment à soi-même. Les dernières études ont démontré que nos capacités d'attention, en définitive, sont extrêmement limitées et qu'on est à peu près 3% seulement à pouvoir faire plusieurs choses en même temps sans subir une baisse de concentration et que 97% d'entre nous seraient moins vigilants, perdraient de l'efficacité. Voilà, et moi, avec ma casquette d'illusionniste, évidemment, puisque mon métier, c'est d'être conférencier, je le démontre en live à travers des séquences où je prouve, évidemment, ce que nous sommes en train de nous dire à travers des séquences. Alors souvent, c'est du pickpocket, mais ça peut être également des changements qui ont lieu sous nos yeux. Je change de chemise, par exemple, et personne ne s'en aperçoit. La couleur a changé, on ne s'en aperçoit pas. Donc voilà, ce sont des moments qui nous permettent de prendre conscience. Et c'est à partir du moment où on a ces prises de conscience que l'on change.
Est-ce que tu aurais un conseil en particulier pour les managers? Parce que vous décrivez très bien dans le livre le quotidien des managers où on est sans cesse interrompu, où quand c'est pas les mails, les appels, c'est les collaborateurs qui viennent, dit t'aurais pas une minute. Mmh. Est-ce que tu aurais une astuce en particulier ou un conseil pour eux?
Oui, c'est-à-dire de jalonner ces journées par des temps de récupération de l'attention ou des temps de concentration. Il est vraiment important dans son calendrier, je dirais même journalier, de s'offrir des moments de pause ou en tout cas des moments où on s'isole. C'est vraiment important et d'ailleurs, quand on a travaillé sur cet ouvrage, on est allé rencontrer des personnes qui sont des championnes de l'attention et en fait, elles ont tout ce point commun-là, c'est de pouvoir s'isoler pour pouvoir réfléchir. Évidemment, le manager, son objectif, c'est de conduire évidemment ses équipes, mais également, il a tout un pan de sa vie à réfléchir, anticiper, et donc ce temps-là demande de la réflexion. Donc voilà, c'est de pouvoir jalonner, de pouvoir fermer la porte, de pouvoir dire dans ces tranches horaires-là, ne pas me déranger, de s'extraire des médias, évidemment, hein, de l'ordinateur ou de son téléphone. Ça, ce sont vraiment des petits pas, mais qui vont faire la grande différence.
En essayant de sacraliser ces temps-là dans l'agenda.
Et oui, parce que c'est pas simple. Aujourd'hui, on sait qu'un manager est coupé toutes les 12 minutes, à peu près. Et je rejoins ce que dit Erwan, c'est-à-dire que à partir du moment où on est déconcentré, où notre attention est malmenée, eh bien notre cerveau va devoir prendre un temps de réadaptation. Et ce temps très variable selon les études, mais on sait que c'est plusieurs minutes. Donc, vous êtes déconcentré toutes les 11 minutes. Il vous faut à peu près 3 minutes pour vous reconcentrer. Ça laisse peu de temps pour pouvoir être efficace sur ces projets.
On va s'intéresser maintenant aux solutions un peu plus précisément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, optimiser son attention? Je vais te partager le secret de Guillaume Néry, qui est champion du monde et recordman d'apnée en profondeur. Il s'exprime dans le podcast « Les secrets du mental » de Mo Kakher. Tu vas me dire ce que tu en penses.
Mon rituel avant de plonger, il est essentiellement concentré sur comment je respire. Et finalement, c'est mon outil pour pouvoir créer un peu le pont entre le corps, je rentre par l'intermédiaire du corps dans l'apaisement du mental. Mon objectif, c'est vraiment d'atteindre cette idée du calme intérieur. Je pense que dans toute réalisation de performance, alors encore plus en apnée où on doit être dans une consommation d'énergie minimale, je pense que c'est valable dans absolument tous les domaines de qui requièrent une performance, y compris une performance intellectuelle. À un moment donné, si on arrive à convoquer cet état de calme intérieur profond, bien installé. Derrière, on a toutes les armes pour pouvoir donner absolument le meilleur de notre capacité. Et créer le calme intérieur, pour moi, ça, j'utilise la respiration comme une baguette magique.
Alors, la respiration, c'est une baguette magique?
Ouais, j'allais parler de la cohérence cardiaque. Donc, je souscris évidemment. Effectivement, la cohérence cardiaque devrait être enseignée dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, Je me félicite des annonces qui ont été faites hein, par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre, parce que des cours d'empathie, des cours sur l'intelligence émotionnelle et donc sur la cohérence cardiaque vont être administrés et l'ont déjà été hein, par le passé. Hein. Il y avait déjà eu des prototypes à Poitiers notamment. La cohérence cardiaque, tout le monde devrait la pratiquer tous les jours. C'est extrêmement simple et elle nous permet, évidemment, comme il le dit très bien, d'être dans un état de sérénité. Et en définitive, elle n'est pas... Alors, il parle beaucoup des performances, mais je pense que on n'a pas besoin d'aller chercher de la performance pour utiliser la cohérence cardiaque. Nous avons tous dans nos vies des moments qui vont être plus ou moins stressants, où voilà, le pouls cardiaque va être beaucoup plus important. Eh bien là, à ce moment-là, quand on le ressent, eh bien, on doit utiliser... la cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration, ça prend 5 minutes maximum et c'est extrêmement efficace, ça oxygène notre cerveau et ça nous permet d'être dans un état beaucoup plus serein. Il y a deux émotions fondamentales qui combattent en permanence en chacun d'entre nous, la colère et tous les sentiments négatifs qui en découlent et la sérénité et toutes les émotions positives qui en résultent. Voilà, donc c'est la recherche de cet état serein qui va nous permettre effectivement de développer cette attention.
Alors au-delà de la cohérence cardiaque qu'on peut pratiquer tous les jours, voire plusieurs fois par jour, qu'est-ce que tu nous recommanderais de faire comme routine aussi pour optimiser ou améliorer notre attention ?
En fait, il y a des exercices qui fonctionnent extrêmement bien pour développer son attention. Par exemple, faire un puzzle. Faire un puzzle de 1000 pièces, par exemple, va nous permettre en définitive de mobiliser notre attention sur voilà, la construction de ce puzzle. Et en définitive, on va prendre du plaisir. Il va falloir faire preuve évidemment de patience, d'abnégation. Et ça nous sans nous en rendre compte, en fait, ça développe ses capacités d'attention. Quand on fait du sport, en règle générale, quel que soit le sport, là également, on mobilise notre attention, notre concentration. Donc, développer même la marche, développer ces choses-là, la danse, la musique, la pratique d'art, sont des moyens pour favoriser notre attention et notre concentration. Les deux sont liés.
Ce que j'aime bien, c'est que dans tes conseils, c'est des choses, et vous insistez dans le livre, dans lesquelles on peut prendre du plaisir et de la joie. Cultiver son attention, c'est pas que se restreindre et des choses négatives.
Oui, non, pour moi, c'est vraiment essentiel. Il faut pas qu'il y ait de contraintes. Je pense qu'on peut réussir à... Et d'ailleurs, on réussit quand on prend du plaisir. Donc, il faut chercher des activités qui nous donnent du plaisir. Et généralement, c'est là qu'on va cultiver finalement cet art. Et donc, d'en prendre conscience. C'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, un quart d'entre nous sont nomophobes, c'est-à-dire anxieux lorsqu'ils sont séparés de leur portable. On consulte en moyenne plus de 200 fois par jour son portable. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment des ennemis de l'attention. Et donc, le simple fait de parfois se séparer de ce joujou digital va nous permettre finalement de développer cette sérénité. Après, converser également, hein, aller dans provoquer des échanges en face à face, les yeux dans les yeux, va nous permettre évidemment de mobiliser aussi toutes ces capacités d'écoute active. Et l'écoute active et l'attention sont extrêmement liées. Et donc, voilà, c'est un des enjeux également de pouvoir développer cette écoute active. Donc, quand on est en écoute active, évidemment, on ne regarde pas son écran. Hein, si, lors de cette interview, je regardais mon écran, j'avais les yeux ailleurs, eh bien, la perception que tu aurais de la relation que je suis en train d'avoir avec toi serait évidemment abîmée.
À l'échelle collective, est-ce qu'il y a aussi des bonnes pratiques que l'on peut partager au-delà du plan individuel et notamment pour un manager avec son équipe ?
Oui, je pense que il y a déjà des choses qui se font hein, un peu partout. On cite là dans l'exemple un manager du groupe Orange qui lui sacralise par exemple une matinée, les vendredis matins, où en fait tous les objets numériques sont proscrits et tout le monde, il y a une communication qui est faite, ne nous envoyez pas d'email ou en tout cas nous ne vous répondrons pas dans ce temps-là parce que c'est un temps où on va passer du temps ensemble, les yeux dans les yeux, et qu'on va se séparer de tous ces voilà de ces objets numériques pour pouvoir soigner la qualité de notre relation. Et donc voilà, on en est venu à des moments où il faut effectivement les identifier, les mettre en place. C'est pour ça que je disais qu'au démarrage, il est important dans une journée de se donner des moments de pause, des moments de déconnexion qui vont nous permettre à ce moment-là de favoriser notre attention et notre concentration.
À ton avis, dans le futur, si je t'emmène en 2050, la question de l'attention, et notamment de l'attention au travail, elle sera comment ?
Elle sera de plus en plus cruciale, parce que plus le développement des intelligences artificielles est important, plus nous aurons besoin d'intelligence émotionnelle et donc d'attention. Donc c'est pour ça que je parle d'un enjeu majeur. Il est difficilement quantifiable aujourd'hui, et pourtant il a une valeur inestimable. Donc on a beaucoup parlé depuis le Covid du télétravail, par exemple. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire une analyse précise sur les points saillants du télétravail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur une durée trop courte. On sait aujourd'hui qu'il nous faut des dizaines et dizaines d'années pour comprendre quels sont les vrais paradigmes et les véritables changements opérés. Tout le monde s'est dit le télétravail, c'est extrêmement bien pour soi, pour l'entreprise, c'est économique, ça va permettre à chacun finalement d'être beaucoup plus productif. Mais la réalité, elle est tout autre. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises reviennent à une présence beaucoup plus importante sur site. Pourquoi ? Parce que nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'interactions humaines. Et ce qui favorise le bien-être, c'est l'interaction. Toutes les études qui ont été menées depuis très longtemps par les sociologues ont démontré que nous sommes sereins, nous sommes bien, nous sommes même heureux lorsque nous sommes avec les autres. Et le problème parfois du télétravail, c'est qu'on peut avoir un sentiment d'isolement. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus télétravailler, je suis en train de dire qu'il faut faire attention. Attention à bien mesurer les conséquences dans l'ensemble des domaines.
La tradition de ce podcast veut que mon invité pose une question à mon invité suivant. Donc tu vas entendre la question d'Emmanuelle Duès qui était venue nous parler de leadership. Elle avait une question à te poser.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui, dans l'état de l'art scientifique ou même dans des réflexions plus philosophiques, quelle est la part de l'inné et de l'acquis dans la construction de cette capacité à un moment donné à jouer un rôle d'autorité pour le collectif, plus que de leadership, parce que je trouve que le terme est galvaudé, on est tous leaders de quelque chose, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez pourquoi le camembert président s'appelle président, parce que justement, il y a des présidents de tout en France et que tout le monde est président de quelque chose. C'est un peu la même chose sur le leadership. Donc voilà, est-ce qu'on a découvert, ou est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'on peut construire une réflexion, question difficile, hein, sur le fait qu'on porterait en soi quelque chose dans cette capacité à exercer l'autorité et l'envie de le faire, qui serait donc une forme d'inné par rapport à l'acquis qu'on recevrait dans l'éducation et de la part de la société.
Merci pour cette question. elle est effectivement difficile. Alors, cela dit, on sait aujourd'hui que les bébés, quand ils naissent, évidemment, les hommes et les femmes, quand ils naissent, ils ont des capacités d'empathie extrêmement importantes. Or, c'est une idée reçue qui perdure encore, hein, de penser que les bébés, les enfants et l'homme est individualiste. C'est tout le contraire. Nous avons des capacités extrêmement forte à coopérer. Et parfois, des bébés, on le voit, vont être davantage dans la coopération, davantage dans l'aide, davantage dans l'empathie. Donc, évidemment, il y a une part d'inné en cela. Mais honnêtement, on le voit, ça se développe. Les personnes qui développent ces capacités de leadership dont parle Emmanuel vont la développer à travers le développement de l'écoute, de l'attention, de la concentration, euh, de, de la générosité également. C'est pour ça que ces valeurs d'altruisme, d'empathie, de confiance, de coopération sont aujourd'hui extrêmement prisées. Et les leaders de demain sont celles et ceux qui développeront ces aptitudes.
Quelle question tu aurais envie de poser à mon prochain invité sur ton sujet à toi de l'attention ?
Alors, la question que j'aurais envie de poser, c'est en quoi l'attention est-elle un facteur décisif dans la réussite de vos projets ? Voilà, j'irai vraiment là-dessus parce que, en réalité, on se rend compte, et je l'ai vu avec tous les témoins qu'on a interviewés, qui sont vraiment très, très, très différents, que l'attention est vraiment au cœur de leur réussite.
Merci beaucoup, Régis.
Merci à toi.
Je rappelle ton livre « L'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction ». Et donc, on a bien compris, on met un petit peu sur pause et on se met dans sa bulle pour réussir à se concentrer. Bonne journée, à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. Ooh.